RTI Radio, la web radio 100% dédiée aux dirigeants d'entreprises de taille intermédiaire, animée par Alain Marty, en partenariat avec Généo Capital Entrepreneur et le groupe EPSA.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de ETI Radio. Vous êtes plus de 43 000 dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts et on vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter. Chaque semaine, vous pouvez bien sûr réagir sur les réseaux sociaux. À mes côtés, pour co-animer cette émission, Edouard Braun, qui est chargé d'investissement chez Généo Capital Entrepreneur. Bonjour Edouard.
Bonjour à tous.
Et Ludovic Beribos, associé du groupe EPSA. Bonjour Ludovic.
Bonjour Alain.
Aujourd'hui, on a le grand plaisir d'accueillir un garçon formidable, hein, Guillaume Poitrinal, le fondateur et président de Woodeum. Bonjour Guillaume.
Bonjour.
Alors, vous êtes diplômé d'HEC, vous avez débuté votre carrière chez Morgan Stanley. C'était une belle expérience, hein, pas que en France. Hein. C'était
oui,
où?
À Londres, enfin New York, Londres et Paris.
Mm-hmm. Et alors, votre premier souvenir, le meilleur
formidable.
Et le pire de cette expérience?
J'ai travaillé pendant 3 ans, pour 10 ans en fait. Voilà.
D'accord, c'était bien. Formateur aussi. Ensuite, Unibail, vous rentrez en 1995 et un souvenir de cette fusion quand même qui a été mémorable, hein, avec Rodamco en 2005.
Ouais, on a doublé la taille du groupe, on était numéro 1 français, on est devenu numéro 1 européen sur les métiers des centres commerciaux, des grands immeubles de bureaux et des centres de congrès exposition.
Bon, juste un géant quoi.
Oui, une grosse boîte. Puis ensuite, on est rentré dans le CAC 40.
Ouais. Alors, ça fait quoi d'être un jeune patron, justement, un patron d'une boîte du CAC 40? Vous aviez quel âge à l'époque?
J'avais 37 ans.
Et alors, ça change
J'étais
la façon...
trop jeune. Très clairement.
Ouais. Ça change la façon de manager, de voir la vie, de qu'est-ce qu'il y a?
Non, il y a une reconnaissance, etc. Dans le CAC, ça, beaucoup d'excitation autour de ça. Bon, après, on garde la tête froide et le principal, c'est de garder un esprit entrepreneurial dans une boîte en essayant d'éviter de devenir bureaucratique. Parce que le grand risque de toutes les grosses boîtes multinationales qui travaillent dans 12 pays, c'est de fabriquer de la bureaucratie,
ouais.
C'est-à-dire du temps perdu. Donc, pour rester réactif et pour rester à l'écoute de son marché, être capable de faire bouger les choses, surtout dans un métier qui est un métier autour du commerce, hein, pour les centres commerciaux, où les enseignes ont une espérance de vie aujourd'hui de 5 à 7 ans à peu près, mmh. Eh ben, il faut essayer d'abattre toute la journée les niveaux hiérarchiques, essayer d'arrêter la bureaucratie et tout ce qui ralentit en fait la boîte.
Après 8 ans de présidence, vous décidez de partir. Pourquoi on part?
Enfin, 18 ans de présence dans la boîte. Ouais. Hein, j'avais quand même pourquoi? Bah parce que la boîte avait plus. Voilà, j'avais plus de d'opportunités de progression dans ma carrière. Donc, je me suis dit.
Allez,
voilà.
Hop, je deviens entrepreneur à 100% tout
oui,
seul.
Oui, en fait, je voulais suivre l'exemple d'Alain Marty,
oui,
entrepreneur, si vous voulez, et de tas de copains qui avaient monté leur propre boîte. Et je me suis dit.
Je me lance.
J'avais 45 ans et je me suis dit c'était le bon moment.
Alors, racontez-nous donc ce concept qui marche fort, Woodeum. C'est quoi? Qu'est-ce que vous faites
en
exactement?
En fait, l'idée, elle est venue de la COP21. La COP21, je me suis aperçu que l'immobilier, qui était mon métier, était très en retard sur le calcul de l'empreinte carbone. C'est-à-dire, vous parliez des transports, tout le monde parlait du CO2 au mètre carré des transports, etc., la voiture, tout le monde parlait du... Et nous, l'immobilier, on était restés accrochés au kilowattheure au mètre carré. Donc, on pensait que la question du réchauffement climatique et du carbone, c'est une question de puissance énergétique consommée, en fait, le kilowattheure au mètre carré. Et je me suis dit, en fait, c'est pas ça le problème de la planète. C'est un problème lié, mais c'est pas le problème essentiel. Le problème essentiel, c'est les gaz à effet de serre. Et c'est donc le CO2 au mètre carré. Et donc, le pari qu'on a pris avec Philippe Divkovic, mon associé, c'est de dire, on va faire le numéro 1 français, et peut-être un jour européen, de la promotion immobilière bas carbone. C'est quoi la promotion immobilière bas carbone? C'est que vous allez calculer l'empreinte carbone du bâtiment sur son cycle de vie. Promotion, exploitation et fin de vie. Donc, c'est tout. Alors, ça nous a amené très, très vite sur les matériaux dits biosourcés, parce que ces matériaux biosourcés, notamment le bois, sont des matériaux à empreinte carbone inversée. C'est un arbre, ça passe sa vie à manger du CO2, ça garde le carbone, c'est le carbone de l'arbre qui fait la solidité, en fait, du matériau, et ça vient remplacer des matériaux très émetteurs comme le béton. Donc, nous remplaçons, en fait, des murs porteurs de béton armé par des murs porteurs de bois lamellé collé.
Donc, vous êtes 100% dans l'air du temps, Guillaume, hein?
Oui, alors après, les choses se sont, en effet, aujourd'hui, les gens commencent à prendre conscience que le problème du réchauffement climatique est un problème de gaz à effet de serre. Les gens commencent à prendre conscience que le bâtiment, c'est 30% des émissions. Donc, aujourd'hui, c'est vrai qu'on est très poussé par ce qui est en train de se passer. J'ai envie de dire presque malheureusement, parce que je ne souhaite pas le réchauffement climatique. Mais par contre, j'adore travailler avec ce matériau bois. Au-delà de la performance carbone, on s'est aperçu qu'en fait, les gens adoraient vivre dans des éléments en bois. Donc, en fait, on fait des appartements, on fait des bureaux avec des grands voiles de bois. Donc, au lieu de voir ce grand mur blanc-là, vous voyez ce bois vivant, c'est merveilleux. Les gens adorent habiter ou travailler dans ces univers.
Est-ce qu'il y a des études quand on est dans un environnement en bois, Guillaume?
C'est même démontré scientifiquement. scientifiquement, mon cher Alain, c'est même démontré scientifiquement, parce qu'on a des études scientifiques, il y en a à peu près une centaine qui ont été écrites, sur les bienfaits psychologiques, en fait, et même des bienfaits du point de vue du rythme cardiaque. Vous êtes plus zen, en effet, vous l'avez dit, vous êtes plus zen quand vous êtes dans un univers en bois. Et aussi quand vous avez de la vision sur les plantes. Ce sont les deux bénéfices, en fait, d'être entouré de nature.
Ludovic, vous êtes zen, vous, naturellement, non ?
Je suis extrêmement zen et c'est un sujet très intéressant dans ce qui est dit. C'est cette capacité à repenser même les modèles de conception et le positionnement Caoudéum est juste impressionnant, en fait. On va sur la psychologie, les usages, le bien-être du bois, avec un côté CO2.
Alors, ça a été beaucoup de boulot, parce que c'est vrai, ça paraît facile, mais en fait, quant au pays du béton, parce qu'en fait, il faut quand même le dire, la France a inventé le béton. Hein. Monsieur Vicat, à un moment donné, en 1819, dans son garage, tout d'un coup, par une erreur de formule, il invente le ciment. Et puis après, on fait la précontrainte, etc. Puis après, Bouygues met du béton partout, etc. On fait du béton partout. Nous, on est le pays du béton. Vous savez, les tours à New York ou à Londres sont faites généralement en métal, en verre, etc. Nous, et en béton. On adore le béton. Quant au pays du béton, vous dites, je vais construire en bois. Au début, ça paraît très simple. Et en fait, c'est très, très compliqué parce que toute l'ingénierie, toutes les normes, en fait, ont été inventées pour le béton. Donc, le phonique, tout ce qui est les
sécurité,
questions structurelles, toutes les questions de feu, tout, etc. Donc, on a dû tout refaire. Donc, j'étais parti en disant, je veux surtout pas d'ingénieurs. En fait, on a, nous, une armée d'ingénieurs.
Vous êtes combien dans le groupe aujourd'hui, Guillaume ?
On est 100 dans le groupe. Il doit y avoir au moins 50 ingénieurs là-dedans qui se sont occupés de tout refaire à partir de zéro. Et donc aujourd'hui, en effet, on est capable de faire n'importe quel immeuble. On fait des immeubles de 17 étages à Bordeaux, à Lyon. On est capable de dépasser 50 mètres aujourd'hui avec ces voiles de bois massif. Et on le fait dans des conditions qui sont à égalité de performance avec le béton.
Il y a une prise de conscience des patrons. Les patrons se disent, oui, il faut faire ça. Quoi. C'est-à-dire que c'est aussi uniquement le directeur de l'immobilier ou les services généraux parce que ça coûte moins cher. Ça coûte moins cher d'ailleurs ou pas ?
Non, ça coûte pas moins cher. Ça coûte pas moins cher. On est à peu près à équidistance. On est légèrement plus cher. Pas beaucoup plus cher, on est légèrement.
Bah, faut
plus cher.
Bien vivre, hein,
mais
hein, oui.
Alors en prix de revient et en termes de prix de vente, nous sommes à égalité. D'accord, c'est parce que la boîte elle est un peu plus petite que les mastodontes de la promotion immobilière, donc on arrive à vendre en prix de vente à égalité. Ce qu'on n'a pas arrivé, notre grand échec, c'est de pas avoir réussi à faire comme Tesla, c'est-à-dire vendre la même chose deux fois plus cher. Vous voyez, Tesla,
pas encore.
10 000 euros, c'est un jour ça arrivera peut-être.
On vous le souhaite en tout cas, voilà. Ludovic.
Ah, j'avais une question plutôt dans le registre des achats. On sait que dans la promotion immobilière, la maîtrise des coûts des matériaux peut fortement perturber l'équilibre de vos projets. Je veux savoir comment vous étiez organisé, notamment sur la partie financière achat.
C'est ma grande angoisse depuis le début, parce que quand j'étais jeune, là, quand ces années dont on parle,
pas si longtemps,
il se trouve que je me suis occupé d'un grand projet qui s'appelle Cœur Défense, qui fait 165 000 m² au milieu de la Défense et qui est le plus grand ensemble. À l'époque, ça a été livré en 2001, et qui est le plus grand ensemble jamais réalisé pour les bureaux en Europe. Et il se trouve qu'au milieu du chantier, je me suis retrouvé avec la faillite, en fait, du façadier. Donc, c'était des éléments qui étaient extérieurs et qui ne sont pas arrivés sur le chantier avec un chantier qui est... Donc, je suis très angoissé de la livraison sur le chantier des matériaux depuis ça, parce que j'étais traumatisé.
Et comment vous avez fait sans façade ? C'est frais, quoi.
À la fin, on a eu une explication de texte avec Bouygues et ils ont fini par remettre les sous qu'il fallait pour renflouer le façadier italien qui a fini par livrer les façades de Cœur Défense. Donc, si vous allez à Cœur Défense, il y a des façades. je vous rassure. D'accord. Donc, depuis le début de Woodéum, j'ai énormément travaillé sur le sourcing du bois parce que, notamment en France, on a très, très peu d'industrie en fait en matière de bois. Donc, on a des partenariats avec deux grosses entreprises qui nous fournissent du bois sur des contrats qui sont des contrats longs et qui nous permettent d'avoir ces grands voiles en fait de CLT, de Cross Laminated Timber, bois lamellé contre collé croisé qui remplacent des murs porteurs considérables. Sur des voiles de 30-40 cm de large, hein, qui sont en bois massif, c'est magnifique, c'est très efficace, mais il faut pouvoir les usiner, donc il faut pouvoir qu'on soit livré. Et on a pris soin de faire attention au prix, parce que c'est une matière première, donc évidemment l'offre et la demande fait que ça varie beaucoup, donc on a un coût de la ressource à peu près stable. Pour le reste, je vous rassure, c'est-à-dire les fenêtres, les tuyaux, la plomberie, etc. Nous sommes comme tout
ça.
Le monde, donc
vous galérez,
de temps en temps ça monte, de temps en temps ça descend. Ouais. On essaye de faire au mieux, mais on aura de l'inflation de toute façon sur ces matériaux dans les années qui viennent.
Ludovic ?
Ouais, vous disiez vous êtes une centaine de TP, donc vous restez quand même une structure de taille modeste au regard des projets que vous gérez. Vous êtes dans une stratégie plutôt de faire ou de faire-faire ?
On est assez intrusif dans le chantier, mais on n'est pas constructeur. Donc, on a nos méthodes, on a notre savoir-faire, on a notre technologie pour mettre les climatisations, pour mettre le chauffage, sur les accroches de vêtures, de volets, etc. Donc, on a notre savoir-faire, mais en général, ce sont des entreprises, qui sont d'ailleurs les grandes entreprises, qui a fait aussi décoller, je pense, notre méthodologie. Donc, c'est les Vinci, les Bouygues, les Eiffage, GCC, Matisse, des grosses entreprises qui sont parfois des ETI, ou fait travailler aussi des ETI sur ces sujets, qui viennent réaliser les immeubles. Et on travaille avec les grands architectes que vous connaissez, Jean-Michel Villemotte, Jean-Paul Viguier, Denis Valode, etc. Mmh.
Tous les, que des gens les très fréquentables.
Français.
Que l'on salue.
Oui, j'ai une autre question. Côté plutôt business, en fait, vous êtes dans le monde de la promotion immobilière. C'est quoi les relais de croissance de votre business?
Ouais, c'est infini, hein, la promotion immobilière. Le marché est immense. Donc voilà, je pense que sur le résidentiel, on doit être le 10e français aujourd'hui avec 250 ou 300 millions. 300 millions les prochaines.
Ce qui est pas mal, un peu de temps, 8 ans. Hein.
Sur les bureaux, on est sur 2021, on était le 2e promoteur de bureaux en France, toutes catégories confondues. Donc, on a aujourd'hui à peu près 300 000 mètres carrés de bureaux en construction, en Île-de-France, en bois.
C'est beau.
Donc, ces bureaux, ils sont sur le Grand La Défense. On a un très gros projet à Nanterre Université qui s'appelle l'Arboretum, qui fait 120 000 mètres carrés, qui est absolument magnifique, sur un parc avec un potager, un verger, etc. On a un magnifique projet à Marquet des Poissonnières, 30 000 mètres carrés.
Il faut des vignes, Guillaume, c'est important.
On va mettre des vignes. Oui, c'est une très bonne idée. J'y avais pas pensé.
De vignes.
On va faire notre vin.
Ah, beaucoup d'acteurs de la promotion investissent dans la vigne. Hein. L'hôtellerie et la vigne. Donc, je voulais savoir effectivement si c'était des domaines auxquels vous intéressiez.
L'hôtellerie, oui, on fait de l'hôtellerie. Alors, dans le fonds d'investissement qu'on a monté, qui vient à l'appui en fait de nos projets de bureaux, on a aussi des activités un peu de diversification. Donc, on a une chaîne d'hôtels qui s'appelle Easy Hotel, qui fait de l'hôtellerie budget bas carbone, pour le coup, mais budget.
Ouais. Donc,
les nuits à 30 ou 40 euros. Vous les avez vus arriver à Roissy, ils arrivent à Saint-Denis, ils sont à Nice.
30-40 euros la nuit?
Oui.
Il y a des lits quand même, il y a tout ce qu'il faut.
Il y a tout ce qu'il faut, mais il y a très peu de mètres carrés. Et c'est ça, en fait. L'avenir, malgré tout, quand on parle bas carbone, on va parler compacité. On va parler compacité et on va parler taux d'occupation élevé. Donc, l'hôtellerie économique, elle est très compacte parce qu'elle utilise 9 mètres carrés, donc très peu de bilan carbone, en fait, finalement, pour chauffer, pour construire, etc. Mais surtout, elle tourne à 85-90% de taux d'occupation.
Pour dormir, on n'a pas besoin de 50 mètres carrés non plus.
Donc, c'est l'hôtellerie bas carbone par excellence.
Dernière question, effectivement, côté RSE, on comprend effectivement que votre raison d'être, c'est de proposer des constructions bas carbone à base de structures de bois. Quelles sont les principales dimensions aujourd'hui auxquelles vous êtes attentive, notamment dans ce registre de l'RSE? Alors,
j'ai écrit un livre là-dessus, là, que vous pouvez acheter. Il est en librairie en ce moment. Il s'appelle « Pour en finir avec l'apocalypse, une écologie de l'action ».
Aux éditions Stock, pour être
précis. Aux éditions Stock.
Et combien il coûte, d'ailleurs, le bouquin?
Et 19 euros.
19
et,
euros.
Non, c'est un investissement. Mais,
absolument.
Mais, j'y développe la thèse assez suivante. C'est qu'en fait, en matière des RSE, on a beaucoup trop d'objectifs et on rajoute des objectifs RSE à raison, pour le CAC 40, d'une dizaine par an. Donc, en fait, les rapports RSE vont finir par être d'immenses encyclopédies du bien, du bon, du sage, etc. Bon, le problème de la planète, ce n'est pas le rapport RSE. Le problème de la planète, ce n'est pas un problème. Il y a des sujets, hein, mais ce n'est pas un problème d'égalité homme-femme, ce n'est pas un problème de récupération d'eau de pluie, ce n'est pas un problème d'hôtel à insectes. C'est-à-dire, le problème de la planète, il est super simple. C'est un problème de gaz à effet de serre. Mmh. Et la question des gaz à effet de serre va se positionner au-dessus de tous les autres questions, tout simplement parce que c'est une question de survie de la planète. Et donc, moi, je plaide dans cet ouvrage pour un étiquetage carbone de tous les produits et de tous les services que nous consommons.
Tout.
D'accord. Depuis la,
donc, il y a le baromètre carbone permanent.
Depuis la bouteille de Languedoc-Roussillon ou de Banyuls, jusqu'au voyage à tel ou tel endroit, et jusqu'au service financier, jusqu'à l'abonnement à Netflix, je propose un étiquetage carbone qui nous donne la valeur carbone, le poids carbone, sur le cycle de vie du produit. Depuis sa conception, sa livraison, et puis ensuite sa fin de vie. Le jour où on aura ça, je pense que les comportements vont changer. Pourquoi c'est important d'avoir ça? Parce que nous, Français, nous, Européens, on se dit, on est des petits consommateurs à l'échelle du monde. Regardez le CO2 par habitant par rapport aux Chinois, par rapport aux Américains. Mais nous sommes, nous, tous Européens, un immense pouvoir de consommer. Et donc, la manière dont on peut convertir le reste du monde, la manière dont on peut aider les Chinois, et même les Allemands d'ailleurs, à abandonner le charbon est un immense scandale aujourd'hui, cette manière-là, c'est d'orienter notre consommation. Il nous reste notre pouvoir de consommer. financé par la dette, c'est pas très bien, mais il est là, notre pouvoir de consommer. Et donc, il faut orienter notre consommation vers moins de carbone. Ça veut pas dire nécessairement moins de consommation, contrairement aux décroissantistes qui pensent qu'il faut
consommer moins. Une prise de conscience
moins,
aussi.
Il faut consommer probablement moins en volume, pas nécessairement moins en valeur. Il faut consommer du bas carbone. On l'a fait pour l'immobilier et je souhaite que ça soit fait pour tous les autres secteurs.
Édouard, vous en pensez quoi? C'est une bonne mesure ou pas?
Pour notre génération, en tout cas, c'est une super...
Vous avez quel âge, Édouard?
28 ans.
28 ans, dans le micro, mais formidable, ça nous rappelle des souvenirs. Alors dites-nous, posez-nous une bonne question à 28 ans.
Vous parliez d'international, aujourd'hui le groupe il est en France. Comment vous voyez le développement? Est-ce que vous voulez vous développer dans d'autres pays européens?
Quand j'ai créé le groupe, je me suis dit on ne sera jamais plus de 20. Bon, on est 100 maintenant, donc j'ai vraiment pas envie de refaire un très grand groupe. J'ai dit qu'on accepterait de faire des très gros sujets dans les grandes capitales européennes, pour des grands sièges sociaux. Donc là, on a été appelé sur Luxembourg. On a un sujet aujourd'hui qui arrive sur Berlin. On a pris de l'avance, je pense honnêtement, sur tous les concurrents à l'international, sur cette technique et ces savoir-faire d'immobilier bas carbone, et puis l'utilisation du bois, des matériaux biosourcés, des matériaux recyclés, parce qu'il n'y a pas que le bois, hein, il y a aussi beaucoup de recyclage qu'on utilise, nous, à l'intérieur d'un truc. Et puis cette discipline de mesurer l'empreinte carbone. Donc on est appelé un peu à l'étranger, on va travailler un peu à l'étranger, et puis après je vais prendre ma retraite pour de bon. J'espère que ça sera le plus rapidement possible.
Bon, voyons. Édouard.
Et donc aujourd'hui, vous êtes en avance sur votre marché. Comment est-ce que vos concurrents... Ils voient ça et ils réagissent.
Nos concurrents sont des concurrents et à la fois des alliés. C'est-à-dire, j'ai toujours pensé, quand on est revenu avec le bois, la première réaction, évidemment, de tout le monde a dit « mais c'est n'importe quoi, le bois, c'est des cabanes en bois, ça dure pas, les trois petits cochons, le truc, etc. etc. » J'ai tout eu. Ouais. Et
finalement, je me suis dit, avec les toilettes,
en fait,
au fond du jardin.
Pour pouvoir, au pays de la culture béton, arriver avec des grands immeubles en bois, il va falloir changer la culture. Et le plus simple pour changer la culture, c'est d'aller voir les leaders d'opinion, qui sont vos vieux copains, à la fois vos concurrents depuis toujours, mais avec lesquels vous aimez bien dîner, déjeuner, etc., qui vous racontent des trucs. Et je leur ai raconté ça. Alors, en effet, aujourd'hui, Nexity fait beaucoup de bas carbone. Donc, Nexity,
merci, bravo à Lénina.
Nexity, d'ailleurs, bravo à Lénina, bravo à Véronique Bédag. Le premier aujourd'hui producteur de logements bas carbone, c'est Nexity. Nous sommes numéro 2, mais nous, 100% de notre production est bas carbone.
Oui.
Et Nexity, ça doit être 20% ou
Ah, vous êtes spécialisé,
15%. On est spécialisé. Oui. Bouygues s'y est mis, BNP Paribas Real Estate s'y est mis, tout le monde s'y est mis aujourd'hui, même Jessy l'a fait.
Donc c'est tendance
tout
maintenant.
Tout le monde fait le truc. D'autant plus que la réglementation depuis le 1er janvier dernier a changé. Et donc avec la RE 2020 qui a remplacé la RT 2012, d'être un peu technique, les immeubles, on a obligé chaque immeuble à calculer son empreinte carbone. Donc, voilà, vous avez le kilowattheure au mètre carré d'un côté, qui est toujours là, hein, le vieux kilowattheure au mètre carré, qui date de la chasse au gaspillage de Raymond Barre, vous n'étiez pas né. Et nous avons rajouté, enfin, le CO2 au mètre carré sur le cycle de vie.
Ça progresse,
même
quoi.
Ça fait progresser.
Édouard, une dernière question?
Sur la mesure de l'empreinte carbone, comment est-ce qu'aujourd'hui, vous arrivez finalement à calculer cette empreinte carbone de vos bâtiments?
C'est assez, contrairement à ce qu'on peut penser, assez simple. Parce qu'en fait, chaque élément aujourd'hui, chaque matériau de construction vendu, il y a une fiche déclarative qu'on appelle une fiche FDES qui vous donne le poids carbone du matériau. Alors après, vous avez ce qu'on appelle de l'énergie grise, c'est-à-dire l'énergie dépensée pendant le chantier. Puis après, vous avez l'énergie du bâtiment. Si vous chauffez au fioul, c'est pas très bon. Si vous avez des pompes à chaleur, c'est mieux. Et puis après, vous avez le caractère recyclable ou pas, en fin de vie, de votre bâtiment. Donc, vous avez, honnêtement, de façon assez simple, l'empreinte carbone du bâtiment. Aujourd'hui, on est passé par mètre carré de 1500 kilos à 700 kilos. Oui. On arrive à diviser par deux. L'étape d'après, pour encore rediviser par deux, ça va être de retravailler sur des matériaux qui restent des matériaux minéraux ou synthétiques pour rajouter du biosourcé. Donc, vous aurez des toilettes en biosourcé, vous aurez de la clim en biosourcé, vous aurez du vitrage.
Ça va tenir quand même
en biosourcé.
Ça va tenir, hein.
Vous allez avoir du vitrage en biosourcé. La lignite du bois va permettre de faire des vitrages. Donc, au lieu d'avoir des vitres qui sont extrêmement émettrices et qui sont issues de ressources non renouvelables, hein, parce que la silice est non renouvelable par essence, vous aurez des vitrages. Donc, tout ça est en train d'arriver et nous allons vivre demain avec du biosourcé et du géosourcé. Et beaucoup moins de matériaux minéraux ou de matériaux synthétiques.
Guillaume Potrénal, dites-nous, il va bien, Stéphane Bern?
Stéphane Bern va très très bien.
Son loto du patrimoine, votre loto du patrimoine, ça se porte comment?
On l'a fait, honnêtement, c'est une espèce de joint venture, en fait, puisque c'est une rencontre avec Stéphane qui venait de se voir confier la mission par le président de la République de réfléchir à comment est-ce qu'on peut protéger le patrimoine. Et puis moi, j'arrivais à la Fondation du patrimoine et je me suis dit, il y a peut-être quelque chose à faire ensemble. Et il y avait cette vieille idée qui avait été défendue par François de Mazières, le maire de Versailles, qui avait essayé de passer une loi en disant on pourrait dérouter un tirage du loto pour faire le loto du patrimoine. Et au lieu de dérouter un tirage du loto, on est allé voir Bercy, on leur a dit on va faire un tirage supplémentaire,
bien sûr,
ça va faire des sous en plus pour Bercy. Et puis ce fameux jeu de grattage à 20 euros, qui est le jeu de grattage inouï sur lequel j'espère vous allez tous gratter en sortant de cette pièce, et qui nous permet quand même d'aller de récupérer entre 20 et 30 millions, ça dépend des années.
C'est beaucoup d'argent.
Pour le patrimoine chaque année.
Alors dites-nous, vous connaissez tous les...
Et de sauver 120 monuments supplémentaires par rapport à ce que nous faisons déjà à la Fondation.
Vous connaissez tous les politiques, hein, vous avez bossé avec plein de politiques, notamment Anne Hidalgo, Valérie Pécresse. Donc ma question, c'est pour qui vous avez voté?
Ben ça, je ne vous le dirai pas, mon cher.
Bon, allez, pour terminer...
Parce que je continue à travailler avec chacun d'entre eux, hein, c'est un peu mon métier.
Pour terminer, est-ce que les meilleurs vins du monde sont du côté de Cadaqués?
Non, je ne pense pas.
Non.
Je pense que les meilleurs vins du monde, mon cher, sont en Bourgogne, quelque part sur la Côte de Nuit, un endroit que je ne vous dirai pas.
C'est une bonne réponse également. Merci beaucoup, Guillaume. Merci également à vous, Edouard et Ludovic. Fin de ce numéro de ETI Radio. Retrouvez tous nos podcasts sur notre site et suivez notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous mardi prochain, ça sera 14h précise, pour une nouvelle émission.
L'invité de la semaine de ETI Radio, une production B2B Radio.tv en partenariat avec Généo Capital Entrepreneur et le groupe EPSA.